constante évolution. Le copilote est un regroupement d'experts sous un même toit. Que ce soit dans les domaines de la gestion de la structure d'entreprise, ressources humaines, communication et marketing, technologie, comptabilité et juridique. Le copilote accompagne les entreprises dans leur croissance en maximisant leurs profits et en optimisant le potentiel de toutes leurs ressources. Consultez lecopilote.ca pour connaître tous les services offerts. Suivez-nous sur Facebook ou sur Twitter. Le copilote, un atout de taille pour votre réussite.
Hey, bon matin, c'est KRL, François Bégin est avec vous et avec Jessica Schuller. Bon matin, Jess.
Bon matin.
Comment cela va?
Ben, ça va bien.
Ça va très bien, merci. On est au mois d'avril déjà. Ça
ah,
va
oui?
vite, hein?
Ah.
Ben oui. Wake up!
Je sais pas, il neigeait hier puis comme tombé.
Ouais, mais là, le soleil s'en vient, le beau temps s'en vient.
OK, bon.
Non, le pire est derrière nous. Le pire est derrière nous. Et on veut vous parler d'une activité spéciale, en fait, une émission spéciale. Notre émission, Entraîne ta fibre, réaliser votre désir d'entreprendre. On aura la chance et la joie de faire en direct de la Foire des entrepreneurs.
Oui.
C'est le 28 avril prochain.
Oui.
On sera en onde de midi à 2 heures.
Oui.
Primeur pour toi, Vincent, ce matin, on a Vincent Fournier avec
oui.
nous. Salut Vincent.
Bon matin.
Vincent, t'es pas au courant. Donc très, très, très excitant ce beau projet-là. Mélanie non plus, t'es pas au courant. Oui, tu le savais, Mélanie, on te l'avait dit. Ah oui. en fait, c'est quoi la Foire des entrepreneurs, Jess?
Si je me trompe pas, on est rendu à la 3e édition.
Quatrième,
c'est ça. En fait, c'est un événement qui se tient, qui permet à tous les joueurs qui interviennent au niveau des entrepreneurs d'avoir un kiosque,
à
de
plein
se présenter.
Niveau.
Oui, ça
que
peut
soit
être
le financement, vente.
C'est ça. Publicité, marketing.
Coaching.
Oui, il y a vraiment de tout, des avocats, des comptables, même les banques, des organisations aussi comme par exemple, les fonds d'emprunt ou des places où on peut, Québec International, des places qu'on connaît peut-être pas, mais qu'eux peuvent financer dans notre projet au fur et à mesure. Puis,
donc, si vous avez le désir de démarrer une entreprise, si vous êtes en affaires,
oui.
Peu importe à quel niveau vous êtes en affaires, il y aura définitivement des choses qui vont vous intéresser lors de la Foire des entrepreneurs.
Oui, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours des conférences plus majeures avec des gens qu'on connaît plus avec une grande salle, mais aussi il y a des événements éclairs qu'on appelle, ça veut dire que des événements c'est des petites conférences qui vont vraiment fournir du contenu, du savoir-faire pour les gens qui veulent sur différents niveaux. C'est vraiment bien adapté, c'est tous des cloisons fermées, fait qu'on peut choisir où on prend les renseignements, où on veut en fait en savoir plus. Là, c'est une belle organisation, une belle initiative de la Chambre de commerce.
C'est ça, c'est organisé par la Chambre de commerce?
Oui, la Chambre de commerce de Québec. Puis je pense que d'année en année, ils connaissent le succès, puis ils s'arrangent aussi pour, c'est ça, de plus en plus grossir l'événement pour permettre d'avoir un événement annuel où tous les entrepreneurs se regroupent puis ont accès justement aux joueurs entrepreneuriaux, mais aussi d'apprendre de ceux aussi qui ont passé par là. Tout ça, c'est vraiment un bon...
Donc, c'est le 28 avril prochain et ça se déroule donc au Centre de Foire Exposité. Au niveau des grandes conférences, il y aura Dominique Gagnon, cofondateur de Connect & Go, Serge Beauchemin, que vous connaissez tous, qui est, dans le fond, investisseur et dragon, Vincent Thériault, cofondateur de Surmesure, qui sera là également, et Sylvain Parent-Bédard, qui est président directeur général de Québécom. Ce seront les grands conférenciers. Et nous, on va avoir le plaisir d'animer en direct de midi à 14h une émission qu'on a préparée spécialement pour vous, qui va se décliner en 5 thèmes, dans le fond, les 5 stades de croissance de l'entreprise. Donc, on part du pré-démarrage, on fait une petite demi-heure là-dessus. Après ça, on va parler de démarrage, on va parler également de croissance, parce que la croissance, ça peut être un moment crucial de votre entreprise. On va parler de maturité et on va conclure l'émission de 2 heures avec un thème sur le transfert d'entreprise. Donc, pour chacun des thèmes, on va avoir un invité avec nous qui va venir parler de son expérience en tant qu'entrepreneur par rapport à ce thème-là. On va pouvoir vous dévoiler dans notre prochaine émission qui seront nos invités. On va finaliser le tout, puis on a vraiment du monde trippant qui vont être là avec nous. Et on aura aussi un chroniqueur qui va venir nous parler peut-être un service de son entreprise ou sa vision au niveau des services que l'entreprise offre par rapport à ce thème-là toujours. Donc, très excitant comme projet. Merci beaucoup à la Chambre de commerce de nous donner cette belle opportunité-là de venir vous parler. Puis ça sera diffusé en direct sur place à Exposité. Donc, si ça vous tente de venir nous écouter, écouter le show en direct avec nos invités, nos chroniqueurs, ça va être très intéressant. Il y aura des petits sofas style lounge là, avec des speakers. Vous allez pouvoir venir voir le show en direct. Ça va être très, très, très intéressant. Oui. Donc, ça se passe le 28 avril prochain, de midi à 14h, à Exposité au Centre de foire, pendant la foire, en fait, des entrepreneurs. Et puis, on va être là avec un sourire d'en face.
Ben oui!
All right! Merci, Jess. Alors, on va passer à notre chronique performance avec notre ami Vincent Fournier.
Cette chronique sur la performance d'affaires est une présentation de Vincent Fournier, optimisateur de performance. Vous en avez assez d'obtenir des résultats mitigés? Vous souhaitez avoir plus de succès et gérer une entreprise plus performante? Que ce soit par des conseils stratégiques, des conférences ou de la formation, Vincent Fournier saura vous accompagner vers la réussite. Pour plus d'informations, consultez vincentfournier.ca.
Bon matin, Vincent Fournier.
Bon matin, François Bégin, comment ça va?
Je l'aime, ton thème, il est le fun.
Il est cute, oui, moi aussi, je l'aime beaucoup.
Ça va super bien, Vincent, merci encore d'être là avec nous. Tu es optimisateur de performance, conférencier, auteur d'un livre. Arrêtez de vous vendre, laissez les gens vous acheter.
Arrêtez de vendre, laissez les clients vous acheter.
Et voilà.
Effectivement.
J'étais pas loin. Et tu nous parles ce matin de devenir une solution.
Oui, parce que je trouve que souvent, on se lance comme entrepreneur et on se dit, ah, j'ai une bonne idée, là, ça va être extraordinaire. Mais en même temps, on se dit, OK, c'est vrai, j'ai une bonne idée, mais est-ce que véritablement cette idée-là résonne dans la clientèle qu'on veut rejoindre? Mmh. Donc, la première question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'on vend des produits ou des services?
Ça dépend. Je dirais, il y en a des gens qui vendent des produits, d'autres qui vendent des services.
Effectivement, mais la réalité, au bout de ça, c'est qu'on répond à des besoins, on répond à des problématiques, on répond à des enjeux, donc on est une solution. Tout entrepreneur qui part en affaires doit se mettre dans la tête qu'il doit devenir une solution pour la clientèle cible qu'il est.
Je comprends. Donc, même si vous vendez du produit, un produit, aussi concret et tangible qu'il soit, les gens vont acheter un produit au niveau de la consommation basé sur un besoin.
Exactement. Comme je disais récemment, on consomme tous en fonction d'avoir plus de plaisir ou moins de douleur.
Exact.
Donc, il y a toujours une motivation. On en a parlé dans nos dernières chroniques. On a toujours une motivation. Donc, c'est là où c'est important de comprendre que pour devenir une solution, il faut qu'on connaisse les problèmes et les enjeux de notre clientèle. Donc, on parlait récemment de travailler à découvrir quel est notre client idéal, qui est notre client idéal, à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'il fait. C'est super important de connaître toutes ces données démographiques, personnelles, professionnelles, mais c'est d'autant plus important de connaître quels sont ses enjeux, quelles sont ses frustrations, quelles sont ses préoccupations, ses défis, les pièges qu'il veut éviter, les objectifs qu'il veut atteindre. C'est tout ça qui va nous permettre de bien connaître notre client et là, d'arriver avec une solution qui va l'aider à atteindre ses objectifs.
C'est tellement vrai, Vincent, puis je sais pas si c'est encore d'actualité, mais moi, quand j'ai commencé dans la vente, je travaillais dans la vente automobile à l'époque, et puis on m'a appris à découvrir les besoins de mes clients.
Oui.
Parce que même si je vendais une voiture, qui était quelque chose de bien tangible, bien concret, les gens qui venaient magasiner une voiture, il y avait un besoin.
Exactement.
Soit un besoin de se déplacer ou peu importe, mais c'est à moi de le découvrir, le besoin. Est-ce que mon client, c'est parce qu'il a besoin d'un camion performant parce qu'il veut transporter de la marchandise ou peu importe? Est-ce que c'est une voiture sport parce qu'ils ont un besoin de profiter de la vie? Mais c'était à moi de le découvrir, ça, en tant que vendeur.
Oui, parce que, en bout de ligne, une voiture, c'est une carrosserie quatre roues. Donc,
ah oui,
à partir de là, qu'est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on veut du confort dans notre voiture ou on veut que notre voiture nous amène du point A au point B? Ben, c'est parce que c'est pas la même façon. On deviendra pas une même solution pour notre client en fonction de ses préoccupations, de ses défis et de ses enjeux. Donc, c'est là où je dis toujours que c'est à partir de ce moment-là, quand on découvre véritablement les frustrations, les enjeux, les pièges de notre client, qu'on devient une solution. Et le jour où on devient une solution, ben, à ce moment-là, on vend plus, on se fait acheter.
Ah, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Vrai, puis c'est tellement ça que j'aimerais que les vendeurs comprennent. Souvent, hein, le vendeur, ben, on parle de la vieille génération. Ouais. Hein? Moi, j'appelle ça dans l'automobile, excusez mon français, le kicker de tire, tu sais.
Oh.
Là, mais on le voit, le vendeur.
J'avais jamais entendu
ça. Oui, c'est ça. Il y a du change dans ses poches, puis il brasse son petit change. Tu sais, hey, ma petite madame, là, c'est bon pour vous. Ça. Alors, on pourrait-il faire une caricature ce matin du vendeur là, qu'on veut pas voir? Là?
Mais malheureusement, c'est ce type de vendeur-là qui a amené une réputation négative au vendeur. grandeur et en guillemets, ma mission, je dirais secrète, mais c'est de faire en sorte qu'on soit plus là, qu'on s'en aille davantage en un rôle de conseiller, un rôle d'allié, oui, avec un objectif de vente. Il n'y a pas un vendeur, il n'y a pas un entrepreneur sur la planète qui veut pas avoir une raison commerciale, qui veut pas faire des profits, qui veut pas avoir des résultats. Mais c'est sûr qu'à partir de là, ben, il faut qu'on puisse comprendre quels sont les enjeux et quels sont les pièges et d'aller plus loin, parce que c'est ça un vendeur. Un vendeur, c'est devenu un allié, un copilote, un accompagnateur, et c'est comme ça qu'on réussit à faire en sorte de devenir, de se faire acheter davantage.
Je veux qu'on parle ensemble, puis on va prendre le temps qu'il faut ce matin, Vincent. On va étirer notre chronique un petit peu. Parce qu'à cause de ces vieux vendeurs-là, ou de vieilles mentalités, ou de vieilles gardes, si tu veux, là, que j'appelle les kikus de tailleur, il y a une nouvelle génération de vendeurs qui ont peur du mot vendeur.
Oui.
Ça, j'aimerais qu'on en parle parce que je trouve ça dommage. Pour moi, la vente, c'est noble. Pour moi, la vente, c'est d'abord et avant tout de satisfaire les besoins du client, de découvrir les besoins et surtout d'aider. Vente, pour moi, c'est d'aider. Puis c'est fort ce que tu dis là, parce qu'il y en a beaucoup qui ne voient pas ça comme ça. Même des gens en vente ne se voient pas comme ça.
C'est souvent une question de perception. Moi, je me souviens, j'ai évolué pendant plusieurs années dans le domaine financier et nos dirigeants nous disaient « Votre objectif, c'est de faire des ventes. » Mais à la base, sur notre carte d'affaires, c'est écrit « conseiller ». Et il y a un genre de conflit à ce niveau-là où des gens disaient « moi, je suis un conseiller, je suis pas un vendeur », et d'autres disaient « je suis un vendeur, je suis un conseiller ». Donc, à quelque part, c'est une question de perception. Et je partage à 100% ton point de vue. Un vendeur, c'est quelqu'un qui va accompagner et qui va aider son client à atteindre ses objectifs.
Exact.
Et plus on comprend que c'est ce mode-là, excusez-moi l'expression anglophone, « what's in it for me », on doit connaître quel est le gain qu'on apporte à notre client. Et c'est comme ça qu'on devient un vendeur, ce que je dirais positif, et qu'on se fait acheter davantage. Mais malheureusement, il y a eu une mauvaise presse parce qu'on a eu cette vente très, très, très agressive, très intrusive, comme je dis régulièrement.
Le closing.
C'est
important, le closing.
Oui, mais encore une fois, comment tu vas faire ton closing? Si tu es extrêmement agressif, ben à ce moment-là, la majorité des clients aujourd'hui sont devenus imperméables à cette
ça
façon de faire.
Ça marche plus en 2016. On est renseigné, on n'a pas envie de se faire barouetter puis de se faire closer justement par un vendeur. Là.
Et comme je l'ai déjà mentionné à ce micro-ci, 70% maintenant et plus du processus d'achat se fait devant notre ordinateur. Alors quand le client est en avant nous, il faut être conscient que c'est un privilège. Maintenant. Et deuxièmement, à partir de là, faut juste comprendre que oui, c'est un privilège, mais il faut qu'on agisse en réponse à ce privilège-là, et que le client qui est en avant de nous, ça veut dire qu'il lui reste, il est en période décisionnelle, son magasinage est fait sur Internet. Donc, si on arrive avec une approche très, très, très intrusive,
ça
à ce moment-là,
pas.
Le client va revirer de bord, il va aller se rechercher son conseil, sa validation, ses informations ailleurs afin de valider sa transaction d'achat.
C'est pour ça que j'adore le titre de ton livre, parce que c'est vraiment ça le nerf de la guerre. C'est, moi, je pense qu'on commence à vendre quand on arrête d'essayer de vendre.
Oui.
Puis c'est cyclique, la vente. Tu le sais, tu es en ouais. vente également depuis longtemps. Tu travailles avec des vendeurs, puis c'est up and down. Tu peux pas toujours être le meilleur vendeur du mois. Ça marche pas de même parce que c'est beaucoup psychologique. Ça part avec toi, comment tu te sens le matin. Es-tu capable d'être positif ou t'es plus négatif? Puis quand tu écoutes tes collègues, puis qu'il y en a que ça fait 2-3 jours qu'ils vendent pas, ça va t'amener vers le bas à pas vendre toi aussi. Fait que faut se faire une carapace comme vendeur. Mais faut se focusser puis se centraliser sur, je pense que tu l'as dit ce matin, devenir une solution. Quand vous voyez comme étant quelqu'un qui apporte des solutions, vous arrêtez de vous percevoir comme un vendeur, et c'est là que la magie va arriver puis que vous allez commencer à vendre.
Moi, je dis toujours, le jour où j'ai atteint mes objectifs, ce jour où j'ai arrêté de vouloir vendre.
Exact.
Et à partir de ce moment-là, quand je me suis mis en position de dire « je vais développer des relations, je vais aider mes clients à atteindre leurs objectifs », à partir de ce moment-là, moi, j'ai atteint les miennes. Et c'est ce que j'enseigne, c'est ce que je promeux, c'est ce que je partage avec ma clientèle.
C'est
et
ton ADN.
C'est mon ADN, effectivement.
Donc, pour tous les kikus tailleurs et les brosses de change, faites attention, Vincent est à vos trousses. Vincent, tu vas être sur la scène à Saint-Augustin pour
la
une conférence.
Oui,
hein?
En conférence le 28 avril. Centre
Lionel Drou. C'est ça? Non,
c'est sur l'avenue Lionel Groulx, c'est quand même pas très loin, c'est le centre Jean-Maurice Roy,
okay.
La nouvelle magnifique salle du Collège Notre-Dame-de-Foy. Partagerai la scène le 28 avril prochain avec 7 de mes collègues conférenciers.
C'est à quelle heure?
C'est à 19h, c'est gratuit, donc c'est vraiment pour nous un honneur. Si vous voulez vous procurer des billets, je vous offre deux possibilités. Un, vous vous rendez sur ma page Facebook où vous avez toutes les informations à Vincent Fournier, optimisateur de performance, ou encore, vous vous allez par le biais de la plateforme de billetterie web qui s'appelle Eventbrite.
Oui, on connaît.
Okay. Que vous connaissez. À ce moment-là, vous êtes en mesure de retrouver ce lien-là pour acheter les billets. Ouais, excusez-moi. Pour acheter les billets et être présent le 28 avril.
Donc, le 28 avril, on a toute une planification pour vous, chers auditeurs. Vous venez de midi à 14h au Centre de Foire pour notre émission en direct. Et à 19h, on va voir la conférence.
J'avais pas réalisé que c'était la même date.
Ben oui, mais nous, on fait sortir nos auditeurs. Là,
oui,
on,
oui.
Les
on va se coucher de bonheur la veille. Vincent Fournier, ça a été un plaisir. Merci pour ta chronique et on se reparle dans deux semaines.
Avec un immense plaisir. Bonne journée à vous.
Nous, on va passer à une petite, un petit pont de closing de cette chronique-là. Et au retour, on a notre ami Charles Auger qui est avec nous. Charles Auger de Chocolat Favori qui va nous parler, en fait, dans notre entrevue de son parcours et de où il est rendu. Alors, on se reparle dans quelques secondes.
Cette chronique vous a été présentée par Vincent Fournier, optimisateur de performance. Vous en avez assez d'obtenir des résultats mitigés? Vous souhaitez avoir plus de succès et gérer une entreprise plus performante? Que ce soit par des conseils stratégiques, des conférences ou de la formation, Vincent Fournier sera vous accompagner vers la réussite. Pour plus d'informations, consultez vincentfournier.ca.
Hey Charles Auger, bon matin! Est-ce que tu m'entends? Charles Auger, es-tu avec nous? Salut Charles!
Salut, ça va bien?
Ça va très bien, merci de te joindre à nous via le téléphone ce matin.
Yes, ben oui, ben oui.
Les routes sont pas très belles.
Non, ils sont pas très belles ce matin. C'est pas super.
Mais c'est pas grave, on a un plan B, puis je suis très content que ça puisse fonctionner, notre entrevue. Yes. Ben, pour ceux qui ne connaissent pas Charles Auger, je vous décris un petit peu qui il est. Donc, Charles a complété des études à Hawaï, le chanceux. Il a un bac en finance et gestion internationale au HEC à Montréal. Donc, il a débuté sa carrière dans le domaine de la finance. Il a déjà été à la tête de plusieurs entreprises, même depuis l'âge de 18 ans. Puis, à 24 ans, il a fait le grand saut dans le monde des grands, on pourrait dire, en acquérant le IMAX des Galeries de la Capitale, qui était à ce moment-là, faut le rappeler, hein, sous la loi de la protection de la faillite en 2004. Donc, à 24 ans, on va en reparler. C'est vraiment, vraiment quelque chose de spécial, ça, d'être capable d'accomplir ça à 24 ans. Et rapidement, Charles et son équipe, ben, redressent la situation, puis le IMAX devient un joueur majeur de l'industrie du cinéma dans la grande région de Québec. En 2008, 4 ans plus tard, le IMAX des Galeries de la Capitale est l'écran de cinéma le plus performant au Canada, et le nom de IMAX est sur toutes les lèvres lorsqu'il est question de divertissement. Incroyable. C'est en 2013 que Charles s'est associé à Dominic Brown dans la grande aventure des chocolats favoris que toute la planète connaît. Mais en fait, on le souhaite, ça va venir bientôt, mais présentement, tous les gens de Québec et du Québec sont en train de découvrir. Bien établi depuis 35 ans à Lévis, d'où Charles est originaire, les chocolats favoris ont déjà entamé leur conquête du Québec et visent maintenant la planète entière. Wow, Charles, vraiment trippant comme parcours. Bienvenue dans l'émission.
Yes, ça va bien.
Ben oui, ça va super bien.
Moi, j'ai une première question. Pourquoi des études à Hawaï?
Ben, regardez dehors, là, vous allez avoir la réponse. Non, ben, écoute, je voulais apprendre l'anglais, parce qu'écoute, je savais pas trop, tu sais, quand j'étais jeune, je donne beaucoup de conférences avec les jeunes, puis, ce que je remarque beaucoup, c'est qu'il y en a tellement qui ont eu la même difficulté que moi, c'est-à-dire que, il y a des domaines où c'est facile de savoir comment faire. Tu veux devenir policier, puis entendez-moi bien, c'est très difficile de devenir policier, mais va sur Google, tape comment devenir policier, tu vas savoir qu'il faut que tu fasses ton cégep là, tu fasses ta technique policière, tu fasses Nicolet, tout ça. Tu veux devenir chirurgien cardiaque à la limite. Tape là, tu vas voir, le parcours est très, très, très facile. Mais il y a d'autres métiers comme animateur radio, par exemple. Qu'est-ce que tu fais pour devenir animateur radio? Tu vas-tu faire ton cours à Jonquière? Tu fais-tu ton cours en radio? Tu fais-tu ton bac en communication? C'est-tu nécessaire à l'université? C'est pas nécessaire? Tu veux devenir politicien? Tu veux devenir homme d'affaires? C'est quoi le chemin à prendre puis tout ça. Fait que moi, je savais que je voulais devenir homme d'affaires. J'avais aucune idée du chemin à prendre. Puis ce que je savais, c'est qu'il fallait parler anglais. Fait que écoute, je me suis dit, garde, faut que j'apprenne mon anglais à quelque part avant d'accéder aux études universitaires puis tout ça.
Et t'as choisi la pire place pour le faire.
Exactement. Ça. Fait que, tu rimes, ça forge la discipline. Écoute, d'aller à l'école à Hawaï, là, c'est difficile parce qu'il faut que tu sois discipliné puis ça te tente pas tout le temps de te mettre les nez dans tes livres.
Mais déjà, tu avais cette drive-là, cette fougue-là, cette passion-là de vouloir accomplir tes rêves. Donc, à 24 ans, l'opportunité se présente au niveau du IMAX. Mais comment tu fais à 24 ans pour convaincre cette société-là, qui est quand même assez grosse, que tu es la bonne personne, dans le fond?
Écoute, c'est un long processus. À la base, moi, je me cherchais un projet. Je sortais de l'école, je travaillais en finance. J'étais malheureux pour mourir parce que je voulais un projet d'affaires puis tout ça. Ben, toute la planète autour de moi elle savait que je me cherchais un projet et tout ça. Fait qu'encore là, il y a bien des gens qui rêvent de partir en affaires, mais personne ne le sait. Fait que tu comprends-tu que personne va les appeler pour leur proposer un projet qu'ils ont entendu parler ou n'importe quoi, vu que personne le sait. Fait que moi, tout le monde le savait autour de moi, que ce soit mes parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, les comptables à ma mère, à gauche puis à droite, tout le monde le savait. Puis à un moment donné, j'ai reçu un coup de téléphone me disant qu'écoute, le IMAX est en faillite. Puis moi, drôle d'hasard, j'ai toujours trippé sur le cinéma, j'ai toujours aimé le cinéma quand j'étais jeune, j'ai toujours aimé les studios hollywoodiens, tout ça, tout le mythe autour de tout ça. Fait qu'écoute, je fais tabarnouche, OK, fait que là, écoute, j'ai été voir là-bas une rencontre, deux rencontres avec le directeur général, qui était Jack Roy à l'époque, qui avait été un animateur bien connu de radio des années 80, puis tout ça. Fait que je rencontre Jack, au début, ils me prennent pas trop au sérieux, je leur dis, écoute, que j'ai un intérêt, je veux regarder tout ça. Écoute, le sérieux a pris peut-être quatre jours après, quand j'ai décidé de lâcher ma job pour aller me concentrer sur le dossier du IMAX, c'est-à-dire d'aller là-bas dans les bureaux, vraiment fouiller. Fait qu'écoute, parle aux actionnaires actuels, parle au syndic de faillite, parce qu'évidemment, il y a un syndic de faillite, me donne l'autorisation d'aller fouiller dans les bureaux, puis tout ça, d'aller avoir accès à tous les chiffres, les rapports financiers. Fait qu'écoute, je passe là, je dirais deux, trois mois à vraiment tout épluché détail par détail. Évidemment, à ce moment-là, mon bac en finance m'a énormément servi parce que je savais qu'est-ce que je lisais, puis je veux pas mon travail avant en finance dans le domaine bancaire m'aidait aussi beaucoup. Fait qu'écoute, pour arriver à un compte rendu de dire, ben écoute, pour partir l'entreprise, ça prend tant de dollars, voilà le plan d'affaires, voilà ce que je ferais, puis maintenant, où je le prends l'argent.
Donc, en ayant pu t'asseoir dans les locaux pendant cette période-là, tu as été en mesure vraiment d'analyser les chiffres puis d'arriver avec ton plan de match, tes recommandations, dans le fond.
Ben c'est exactement ça, oui. Une recommandation autant en termes de chiffres, autant en termes de philosophie, mais autant en termes de vibe de ce que je voulais répandre. Autant en même temps, évidemment, je me suis énormément renseigné sur qu'est-ce qui se passait avec la marque IMAX. La marque IMAX, à cette époque-là, IMAX, c'est une compagnie. IMAX, à cette époque-là, IMAX, c'est une compagnie canadienne, une compagnie qui détient une technologie incroyable, mais cette technologie-là était réservée uniquement. La dépense d'IMAX, c'est extrêmement cher. Puis à l'époque, Hollywood, parce qu'Hollywood, on s'entend, qui est uniquement centré dans l'art, ben, c'est le véhicule. Mais l'objectif, c'est uniquement l'argent. Mais fait, c'est pour faire du box-office. That's it, that's all.
Puis en fait, ce qu'on sait des cinémas, je sais pas si c'est la même chose chez IMAX, mais on sait que les profits viennent pas nécessairement tout le temps du film plus que de toute la vente des concessions.
Tout à fait. Oui, parce que les studios... tellement cher au cinéma. Pour pouvoir juste jouer le film. sans les concessions, c'est impossible d'arriver.
Puis IMAX, à l'époque, on recule. Moi, je suis de Québec, fait que je l'ai vu grandir, le cinéma IMAX. Il n'y avait pas beaucoup de films à l'affiche autres que les productions de IMAX, dans le fond.
Exactement ça.
C'était
exactement
des documentaires, là, si je ne me trompe pas.
Des documentaires.
Ben, exactement
ça. Les dinosaures, les poissons.
Puis moi, à l'époque, ben, écoute, pourquoi les documentaires sont encore super importants, puis il y a encore un énorme public pour ça. Mais à l'époque, IMAX à Los Angeles se rapprochait beaucoup, beaucoup des studios hollywoodiens. Il avait engagé un gars qui s'appelle Greg Foster, qui est un gars très bien plugué avec les grands boss de tous les six studios majeurs qui sont Paramount, Universal, Disney, Sony, Fox, ces studios-là. Puis, évidemment, le but était de se rapprocher des deux. Puis moi, évidemment, ben c'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai documenté, que j'ai interviewé, que je me suis renseigné, puis tout ça. Puis clairement, ben je savais très bien que les IMAX ça s'en allait vers là. Puis d'une époque où en 2005 les téléplasmas arrivaient dans les foyers, le HD commençait à arriver, ben c'était évident que les cinémas allaient avoir une grosse révolution dans le sens de ça s'en va vers où tout ça. Avec des télé HD de 42, 50, 50, maintenant rendu plus que ça dans les maisons, le cinéma devait se réinventer, puis la réinvention passait assurément par IMAX. Parce que IMAX, ben, c'est une technologie différente, c'est des écrans énormes, c'est une expérience beaucoup plus. On va pas voir une comédie romantique en IMAX, on va voir un film qui barbe, qui a des effets spéciaux, un film qui a vraiment une expérience différente, sensorielle. Donc, l'avenir des cinémas à plus petite salle, ben, je veux pas, assurément, est mis en doute parce que beaucoup de gens à la maison maintenant ont des cinémas maison tellement puissants, des écrans de télé de 50, 60, 70 pouces. Donc,
ouais, puis quand tu t'équipes avec à coût de plusieurs milliers de dollars, ben, tu as envie de rentabiliser ton investissement. Là, tu vas peut-être aller moins au cinéma après ça. Là.
Ben, c'est exactement ça. Donc, les sorties de cinéma deviennent beaucoup plus un événement, une expérience. Et ce qui fit totalement dans le cadre d'image.
Ben oui, ça, je pense que ça a été d'être précurseur. Parce que, regarde, il y a des films, là, on va s'entendre, là. Moi, j'ai vu Avatar chez vous au IMAX.
Mm-hmm. Aussi.
C'est, hein? Regarde, c'est un film que tu veux voir au IMAX, là. Tu sors de là, puis t'es comme, waouh, là, c'est extraordinaire vivre ça sur IMAX en 3D, en plus, là. Donc, toi, tu arrives avec cette idée-là qui est comme tellement avant-gardiste. Ça, c'était dans ton plan d'affaires, j'imagine, à l'époque.
Tout à fait.
Puis, en plus, tu t'arrives avec des idées qu'on n'a jamais vues. Vendre de la bière dans un cinéma. Mais ouais, c'est ça que tu dis, c'est que tu as misé sur l'événement. Puis, je pense que c'est tous ces petits détails-là qui ont fait en sorte... Puis, c'est sûr qu'on s'entend que ton plan d'affaires devait être plus étoffé que ça, là, mais qui ont fait en sorte que, crime, le business est passé de faillite à la salle la plus performante en 4 ans.
Mais comment tu es arrivé à financer, justement, quand tu es arrivé? Tu étais dans les locaux pendant 2-3 mois. Tu as pris en connaissance vraiment de l'entreprise, du marché, tout ouais. ça. Mais après ça, qui t'es allé voir avec ton plan d'affaires?
Il était millionnaire. Il a vendu des ananas à Hawaï. Ouais,
ah, ben là.
Écoute, non. Premièrement, je viens d'une super bonne famille. Écoute, je m'en cache pas. Là. Fait que oui, j'ai une mère qui était derrière moi. Mais à l'époque, puis je suis pas gêné de le dire, de toute manière, c'est public, ça prenait 1 million pour ouvrir le IMAX.
Ouch,
fait que tu sais, quand même que ta mère a dit qu'elle va te prêter 70 000 $, il reste toujours bien 930 à aller chercher, là, tu sais. Fait qu'écoute, le but, c'était de partir avec ma valise, puis d'aller chercher ce million-là, d'aller cogner aux banques, d'aller cogner aux investisseurs privés, d'aller cogner aux instances gouvernementales comme la SADEC, d'aller cogner partout. Écoute, j'ai cogné vraiment, pour dire la réalité, partout.
Mais moi, je te vois arriver, le jeune de 24 ans, là, avec tes bonnes idées puis ta belle cravate à repasser de la veille. Puis je me dis, si des grands joueurs n'ont pas été capables de le rentabiliser, pourquoi toi, le petit coun de 24 ans, tu vas être capable de rendre ça rentable?
C'est exactement ça. Puis c'est ça qui a été le plus difficile à matérialiser. C'est ce qui a été le plus difficile. Ça a été convaincre les gens. Ça a été convaincre les gens d'embarquer dans le deal. T'sais, puis tantôt, je t'entendais parler de vente. Penses-tu qu'il fallait pas que je sois vendeur, tu penses?
Mais hein, si t'avais pas eu la capacité de te vendre toi puis de vendre ton projet, ça aurait pas marché.
Ben, jamais de la vie. Puis tu sais, déjà là, ça, tu sais, je veux dire que ça allait marcher, ça revient du miracle, là, parce que tu sais, ça a failli s'échouer 1000 fois sur 1000, 1 fois, là, tu comprends? Puis,
oui.
Le projet était tellement souvent sur la petite corde sensible. Puis, ben, écoute, c'est le timing, c'est de pas abandonner, c'est quand tu te fais dire non, ben, de dire non, moi j'y crois pareil, puis tu sais, c'est d'être un peu entêté, je te dis, non. Fait que c'est comme ça que j'ai écrit, j'ai convaincu personne par personne.
C'est le fun, Charles, parce que tu m'as pas, là tu viens de dire le mot chance, mais de donner la chance, mais c'est pas la chance qui a fait que ça a marché, c'est ton acharnement puis ton travail.
Ben tout à fait, mais tu sais, t'as raison, puis je veux pas être le prophète de tout tombe du ciel, la chance ça arrive, achetez-vous des billets de loto, c'est pas ça. Sauf que dans la vie, tout le monde a de la chance pareil. Il suffit juste des fois de l'avoir. Puis c'est peut-être pas de la chance le bon mot, c'est peut-être du timing.
La synchronicité en français, on appelle ça. Ouais.
C'est d'être à la bonne place au bon moment, d'être avec les bonnes personnes, de lever les bons flags, puis tout ça, puis de voir un peu ce qui se passe, tu comprends? Tu sais, puis ça, en affaires, c'est extrêmement important parce que c'est comme dans le sport. Avoir des bons joueurs de hockey, des bons manières de rondelles, puis des fois, tu vas en avoir d'autres, comme des Sidney Crosby, tout le monde, puis qu'est-ce qu'ils disent d'eux autres? Ils voient le jeu d'une manière que personne d'autre le voit. OK? Puis ça, en affaires, c'est super, super important. C'est-à-dire que tu as même beau avoir plein de talents X, Y, concrets, de terrain, de finance, de tout ça, de marketing, mais reste que des fois, d'être capable de voir le jeu, d'être capable d'anticiper vers où il s'en va. Tu sais, à un moment donné, je disais, puis ça s'applique tellement au monde des affaires, je disais Wayne Gretzky qui disait, le bon joueur de hockey joue où la rondelle est, puis l'excellent joue où la rondelle va être.
C'est tellement ça.
Mais c'est la vision, là, c'est être capable de voir où ça s'en va, puis de croire en ses convictions, là, un entrepreneur, justement, là, comme tu as eu la vision de dire, moi, ça va aller là, Puis je suis convaincue, puis je mets toutes mes chances de mon côté, je vais réutiliser le mot, mais en voulant dire, j'amène les gens avec moi aussi à aller là, mais d'avoir les bonnes personnes autour pour
permettre d'accomplir. Ça, j'aimerais qu'on en parle, parce que j'imagine que ça n'a pas dû être évident nécessairement. Je sais pas, tu as parlé de ta mère tantôt, mais à quel point ta famille, tes amis, il y en a qui ont dû te dire, t'es fou, fais pas ça, puis il y en a qui ont dû te supporter, là.
Ben, tout à fait, oui, puis pour plein de raisons de santé. Il y en a qui disent, fais pas ça parce qu'ils ont peur pour toi. Il y en a qui disent, go, vas-y, juste parce que c'est le fun. Il y en a qui disent, go, vas-y, parce qu'ils croient. T'entends toutes sortes de choses saines, malsaines, puis tout ça. Puis d'un autre côté, c'est de faire le tri dans tout ça, parce que ce qui est drôle, c'est que quand tu deviens d'un projet comme ça, les gens, ils portent beaucoup d'intérêt ou beaucoup d'opinion, alors que, par exemple, je ne sais pas moi, ta blonde décide de devenir infirmière, mais tu sais, c'est rare que les gens vont se prononcer de, non, je pense que tu fais une mauvaise affaire, ou tu sais, c'est comme, ben si t'aimes ça, vas-y, go, c'est parfait, c'est un super métier, c'est super honorable, puis tout ça, tu vas bien gagner ta vie, tu sais, c'est tout ce que les gens vont dire, tu comprends, les gens n'auront pas peur,
ben non, parce qu'il y a pas de risque,
ils ne sont pas en garde contre un risque quelconque, puis tout ça, fait que tu sais. Puis en même temps, ben, les gens font bien ça parce que, tu sais, à cet âge-là, jeune comme ça, le grand danger, c'est que si ça marche, ça va bien. Mais si ça marche pas, ben tu commences ta carrière d'une manière très bizarre. Tu sais, commencer ta carrière en mettant une business encore en faillite une deuxième fois, tu peux avoir des dommages qui sont après difficiles à réparer.
Qui vont te suivre toute ta vie.
Projet, oui. Ton prochain projet, les gens, tu sais, déjà, ça a été difficile de convaincre des gens. Imagine si tu te plantes là, après tu seras plus jamais capable de convaincre personne. Tu sais, c'est ça la grande difficulté. Mais écoute, j'ai cogné à des portes, j'ai convaincu des gens, j'ai vendu le projet. Une des super belles rencontres que j'ai faites dans ma vie, c'est avec Sylvain Adam. Sylvain Adam, à l'époque, c'était le propriétaire de Galerie de la Capitale. C'est le propriétaire d'Iberville. Ça a été vendu en 2006, fin 2006.
Ça va être un méchant visionnaire, parce que quand il a installé ça dans un champ perdu, tout le monde il disait qu'il allait se planter là.
Ben exactement ça. Tout le monde à l'époque le trouvait fou, son père puis lui puis tout ça. Puis Galerie de la Capitale, écoute, c'était une petite partie de leur actif là. Les Galeries de la Capitale, ça a été vendu en 2006, quelque chose comme 550 millions. Puis ils devaient rien dessus là. Tu sais, Sylvain puis Marcel Adam, je pense, c'est les huitièmes plus riches au Canada avant Jean Coutu là. Fait que c'est des gens extrêmement forts, extrêmement puissants. Puis écoute, à un moment donné, du fait que c'était une faillite. Ou c'était en proposition là, c'était sur la loi de la faillite des créanciers et tout ça, je veux pas, tout le monde a un peu son mot à dire, c'est-à-dire qu'il y a des créanciers, il y a les anciens actionnaires, il y a le syndic qui est là-dedans pour faire le ménage là-dedans, puis ça doit passer en cours, puis il y a une structure, il y a des règles qui font en sorte que les gens ont des votes pour accepter la proposition ou la refuser. Toi, si par exemple votre station de radio est un créancier parce que vous avez fait de la pub et n'a pas été payé, ben vous avez X nombre de votes en fonction de vos dettes qui sont dues puis tout ça. Puis tout
donc
ça.
Ta vente, faut que tu fasses à tous ces intervenants-là.
Ben oui, parce qu'à quelque part, faut que tu fasses au syndic puis aux anciens actionnaires puis à tous ces intervenants-là pour qu'eux disent ben parfait, on continue, on accepte l'argent que vous nous proposez, puis on croit encore au projet parce que le projet va continuer. Donc eux, après, sont libres de continuer à perdre de l'argent ou dire ben non, on y va puis on croit au projet. Il faut que tu crois à ces gens-là. Mais encore là, tous ces gens-là, il y a un gars, Sylvain Adams, comme je disais, que lui s'est rendu compte qu'il y avait plus de poids que n'importe qui d'autre dans l'équation. Et, tu sais, en termes de cartes, là, il y avait toutes les cartes dans son jeu. Puis, il se rendait compte que même si les fournisseurs X, Y, Z votaient contre la proposition, si lui voulait la faire passer, il avait le pouvoir de le faire.
C'est parce qu'à cause qu'il était le locataire de l'emplacement, là. Donc, il y avait.
Cause qu'il y avait le terrain. Nous autres, la bâtisse est venue qu'à m'appartenir. Mais il y avait le terrain, puis le terrain est régi par un bail emphytéotique qui contrôle l'utilisation du bâtiment. Puis le bail est tellement bien fait qu'en cas de faillite, il prend possession du building, puis tout ça. Puis il y avait aussi beaucoup de créances majeures sur les autres. Faire une histoire courte, Sylvain, il m'appelle, puis Charles, écoute, je me rends compte que finalement, la personne qui va trancher, là, c'est moi. C'est pas personne d'autre que moi. C'est pas IMAX, même pas IMAX Corporation qui a tranché. C'est eux autres. Puis il dit, écoute, moi, je veux me faire une idée là-dessus pour savoir quoi trancher. Fait que telle date, si t'es disponible, je te donne 20 minutes pour venir me rencontrer, moi, puis mon board de directeur. Puis t'as 20 minutes pour nous convaincre pourquoi ton plan de match est le bon. Puis tout, fait que rentre pas trop dans le micro parce que t'as juste 20 minutes, je t'avertis.
Wow.
Parfait. Fait que là, écoute, je monte à Montréal-Ivoire. J'étais tout content d'avoir étudié en anglais puis tout, parce qu'écoute, c'est tout en anglais, évidemment. Évidemment. Puis, fait que là, écoute, j'ai 20 minutes pour commencer.
Là, c'était intimidant, ça, là. Tu dois avoir les mains moites, quelque chose.
Là. Écoute, j'avais coup de moi. Fait que je rentre là-bas. Écoute, ils sont même pas en veston, je pense, ils sont en tuxedo.
Leurs limousines sont dans la rue, là, tu sais.
Mais non, fait que ça, ils sont à peu près 15 dans la salle, puis là, parfait, Charles commence, puis il part un chronomètre.
OK.
Fait que là, je me lève, puis je commence à dire, oui, je suis l'homme de la situation parce que je pense que blablabla, blablabla. Fait que là, il m'arrête tout de suite, en mettant comme sa main vers en haut. Puis, excusez, je vais dire des pas beaux mots, là, mais dit Charles, si tu fais juste penser puis t'es pas plus certain que ça, décalisse, on n'a pas de temps à perdre. Pas beau mot, bang, demain.
Tout pour te mettre à l'aise.
Oui.
Écoute, là, si je le rentrais en dessous du plancher, là, tu sais, j'avais envie de pleurer, là, tu sais, écoute, sérieusement, tu sais, tu te fais dire, si tu fais juste penser puis t'es pas plus certain que ça, décalisse, on n'a pas de temps à perdre. Tu sais, je veux dire, oublie ça, là, je vais mourir, tu sais. Fait que, tu ris, mais c'est une leçon qu'après, j'ai retenu toute ma vie, c'est-à-dire que, de douter, de brainstormer sur des idées marketing, sur des choses, des produits, tout ça. Écoute, c'est quelque chose, le doute est un atout extraordinaire. Chez un homme d'affaires, plus tu doutes, plus tu vas être efficace, plus tu vas remettre des choses en question, tu regardes de différents angles. Mais sur l'essence même de pourquoi tu es là, la mission même que tu veux donner à l'entreprise, puis tout ça, ça, c'est en doute qui est fait, le reste chez vous. Là, tu comprends?
C'était pas le temps de douter à cette réunion-là, c'était le temps de leur démontrer ta confiance.
Je suis convaincu,
ben oui.
Je suis confiant, puis c'est ça de même qu'on fait, puis je suis pas. Bon, si on fait ça, je pense que ça risque de marcher, tu comprends? Non, non, ça va marcher, puis voilà le plan, puis signe en bas, là, tu comprends? Fait que c'est pas mal ça. Fait que, écoute, évidemment, le sort a fait que ça a très bien été la rencontre. Malgré tout. Puis écoute, et après, ils m'ont fait attendre une demi-heure dans une salle, puis ils m'ont rappelé, puis on dit, garde, parfait, on va voter oui à proposition, wow. Prépare-toi, ça va marcher, tout ça. Fait que l'histoire est mise au monde comme ça, là. Est née comme ça, à vrai dire. Puis écoute, ça a été un 10 ans superbe. Sérieusement, j'ai eu une job de rêve, j'ai travaillé avec les studios hollywoodiens tous les jours, presque toutes les semaines. J'ai eu la chance d'être à Los Angeles. Écoute, je sais pas combien de dizaines et de centaines de fois. Ça a été extraordinaire.
Et ça t'a amené à la vente de l'entreprise en avril 2015. Tu as été racheté par Cineplex.
Exactement.
Et ça t'a ouvert la porte parce que c'est certain qu'un gars comme Dominic Brown a dû te voir aller aussi. Je sais pas si tu le connais depuis longtemps, mais il a dû voir un petit peu qu'est-ce que tu avais réussi comme exploit, le IMAX. Je sais pas comment ça s'est passé, mais là, tu es dans une aventure qui est extraordinaire. Puis moi, je la vois pas, la limite de cette entreprise-là, vers où vous allez aller. Il y a des franchises qui vont s'ouvrir sur Mars un jour, c'est sûr, là.
Ben écoute, la limite, on la voit même pas nous autres non plus. Dominique, écoute, on venait un peu du monde, d'un monde parallèle, c'est-à-dire que Dominique, écoute, a fondé Binox, le studio de jeux vidéo. Donc, il est dans le jeu vidéo. Maintenant, le jeu vidéo, moi, je vous dirais que c'est quelque chose qui est très, très rapproché. Écoute, on a nos entreprises ont travaillé sur des dossiers respectifs ensemble. Pour pas nommer, par exemple, les autres faisaient le jeu de Amazing Spider-Man. Donc, on faisait le jeu vidéo sur la planète au complet pour Sony. Puis nous autres, ben, on faisait le lancement canadien du film.
Oh,
fait que je veux pas s'amener les deux petites entreprises de Québec à travailler ensemble puis tout ça. Fait qu'écoute, puis on, à un moment donné dans notre vie, on s'est retrouvé un peu à la même place, au même endroit. C'est-à-dire que Dominique avait vendu Activision. C'est très drôle, une compagnie qui est basée à Santa Monica, à Los Angeles. Moi, le siège social d'IMAX est à Santa Monica, à Los Angeles, à peu près à 2 minutes à pied. Et puis, Dominique, ben à l'époque, Dominique, c'est un créateur. C'est un visionnaire, c'est le plus grand créateur que je connaisse de la planète. Donc, à partir du moment où il ne peut plus créer, où il y a une fin à quelque chose, ben il va s'emmerder et il va chercher à faire d'autres choses. C'est un petit peu ce qui arrivait avec Binox, du fait que c'était rendu Activision le siège social. Ben, la bâtisse à Québec sur Charest était rendue bien pleine. Donc, la croissance passait par d'autres entreprises que Binox qui appartiennent au groupe Activision. Donc, si Activision voulait grossir l'entreprise, ben, c'est pas en engageant 100 personnes de plus chez Binox, c'est peut-être en achetant un autre studio à Vancouver, en Suisse, à Shanghai ou peu importe. Donc, se retrouvait beaucoup plus à faire tourner la roue et moins à créer puis tout ça. Puis c'était un peu ce qui était mon cas au IMAX, parce qu'on a réussi tellement des affaires extraordinaires, justement tantôt vous parliez d'Avatar, qui était comme l'apogée de tout ça, qu'après Avatar, c'est tombé comme un peu, quand tu reviens de deux semaines de vacances le dimanche soir, là, tu sais, t'es un peu comme...
Ben, un genre de postpartum, tu sais, c'est quoi qui est le... What's next, là, tu sais, de quoi, qu'est-ce qu'on
c'est
fait maintenant?
C'est exactement, what's next, puis, ben, tu parlais de Cinéplex, puis Cinéplex, à l'époque, écoute, on est les deux dans le cinéma hollywoodien, dans la ville de Québec, il y a le CLAP qui fait très bien les choses, et puis d'ailleurs, Robin, c'est un bon partenaire à nous, c'est-à-dire qu'on travaillait beaucoup plus ensemble, puis le cinéma à Québec, faut se détromper, c'était une petite industrie qui se tenait très serrée ensemble. Ce qu'on voit pas souvent dans des industries, souvent les gens se compétitionnent puis se font la guerre puis tout ça. Dans le cinéma, c'est un peu comme dans l'humour, ok? Parce que pourquoi? Tout ce qu'on avait avantage, c'est que le nombre de billets de cinéma dans la ville de Québec vendus lors d'une année précise augmente. Puis s'il augmente, ben c'est quoi? Tout le monde va gagner. Puis si le nombre de billets vendus de la région de Québec diminue, ben on va tout perdre. Fait qu'à quelque part, on avait beaucoup plus avantage à se tenir ensemble comme industrie pour faire connaître le cinéma, pour faire sortir les gens davantage, pour y gagner tout le monde. C'est un peu la même affaire dans l'humour. T'sais. Si tu amènes ta blonde voir Louis-José Hood, tu n'aimes pas le show, mais tu penses que tu vas vouloir y faire plaisir de l'inviter à aller voir Martin Mapp? Non. Puis tu vois Louis-José Hood, puis tu aimes ça, puis tu ris, puis tu passes une belle soirée, ben tu vas être beaucoup plus réceptif aux autres humoristes en disant hey, « c'était le fun, hein, soirée-là, t'sais, on va t'en voir un autre, puis tout ça. » Fait qu'à quelque part, c'est sûr que Louis-José est un concurrent de Martin Mapp. Ils ont beaucoup plus avantage, tout le monde, cette industrie-là, à travailler ensemble
ben oui.
que de se battre, tu comprends? Fait que c'était un petit peu le cas dans le cinéma. Fait que ce que ça faisait, c'est que nous, on travaillait très proche avec eux, Cinéplex, mais ils venaient pas trop dans nos plates-bandes, puis on n'allait pas dans les leurs. Fait que moi, ce que ça faisait, c'est que je me retrouvais avec une superbe salle de cinéma qui était la plus performante au Canada, mais une salle qui a juste 400 places. Puis le vendredi soir, quand même, que tu sors Avatar 3, là, ben, il y a juste 400 places. Puis le lundi matin, 2 février, quand il y a une tempête de neige, il n'y a pas un chat pareil. Fait que moi, la croissance de mon entreprise passait par quoi? Passait par à peu près rien. Parce que j'aurais pas pu dire, OK, je rouvre un autre complexe d'ingente de Cinéplex. Parce que, tu sais, Cinéplex, c'est un joueur milliardaire. Fait qu'il aurait pu m'écraser du jour au lendemain, tu sais, en cherchant ça. Fait que c'était pas logique de faire ça. Fait que j'étais pris un peu avec, bon, ben, ça fait 8 ans, pas j'ai fait le tour, mais je suis dû pour apprendre plus, pour créer plus, puis tout ça. Puis c'est à ce moment-là que Dominique, écoute, m'a approché pour dire, écoute, je me retire de Binox, j'ai vendu depuis 5 ans, mais je gardais la direction, mais là, je me retire, je viens d'acheter Chocolat Favori, ça fait quelques mois, je veux en faire une entreprise mondiale, je veux conquérir la planète avec ça, je veux que tu lâches IMAX, je veux que tu lâches tout ce que tu fais, tu restes propriétaire, tu veux, mais tu travailles plus là, tu t'en viens travailler avec moi ensemble, puis wow. Écoute, ça a été une grosse décision, parce qu'encore là, écoute, j'étais bien, j'étais heureux, oui, je me posais des questions que je viens de vous parler, mais reste que j'avais une belle job, écoute, j'étais à Los Angeles à tous les 3 mois, 2 mois, je gagnais bien ma vie, tu sais, ce que je veux dire, j'avais pas de problème d'argent, aucunement, tout était beau, là, tu sais, fait que de dire, OK, ouais, ça me tente-tu, qu'est-ce que je fais?
Sortir de ta zone de confort, t'aller dans un domaine que tu connais pas, mais écoute, avec tellement de possibilités de développement. Charles, malheureusement, c'est pas mal tout le temps qu'on avait, mais j'en aurais pris encore pour 4 heures. Va falloir te réinviter parce que là, tu nous as fait un peu le topo de toute ton histoire avant. On est rendu aujourd'hui en 2016. Vous avez une entreprise extraordinaire, puis je connais pas personne qui est pas fan de votre entreprise, puis ça veut dire beaucoup, cette espèce d'aura-là, de vibe, que les gens aiment votre produit, trippent sur votre branding, trippent sur vos succursales. C'est sûr que l'avenir est très positif pour vous si vous placez vos pions au bon endroit, puis vous choisissez les gens. Puis je pense que la grande force que vous avez, c'est votre capacité à bien vous entourer de gens trippants comme toi, Dominique Brown. Merci beaucoup pour ta générosité, ton temps ce matin.
Merci.
On l'apprécie énormément. Est-ce que tu vas être à la Foire des entrepreneurs le 28 avril prochain?
Oui, écoute, je suis supposé de l'être. Si je devrais l'être, comme je te dis, en théorie, fait que oui, on devrait
ben, viens nous voir, puis on va te reparler, peut-être te faire un petit moment au micro pour venir continuer l'entrevue. Ça serait super trippant.
Parfait. Ben, écoute, anytime.
Merci beaucoup, Charles. Bonne journée.
Merci.
Alors, on passe une courte pause et on vous revient avec le copilote. À bientôt.
CKRL 89.1. Vous aimez les romans historiques? Lui préfère la science-fiction? Alors que vos amis ne jurent que par les essais et la littérature québécoise et que vos enfants dévorent des histoires d'amour tourmentées, le Salon international du livre de Québec saura tous vous contenter. Avec plus de 1300 auteurs présents, la diversité est au rendez-vous cette année encore.
Le Salon international du livre de Québec, sous la présidence d'Alama Bancou, du 13 au 17 avril au Centre des congrès de Québec. En avril, ne manquez pas au cinéma Le Clap, Made in France dès le 15 avril, L'origine des espèces dès le 22 avril. Courez la chance de gagner une soirée resto ciné pour deux en collaboration avec les restaurants Le Cosmos. Pour participer, téléchargez gratuitement le magazine Le Clap sur votre tablette. Faites vite, vous avez jusqu'au 28 avril pour participer. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca.
La Ligue québécoise d'impro BD, c'est un match unique où prouesse théâtrale côtoie coup de crayon inspiré. Des équipes composées de dessinateurs et d'improvisateurs s'affrontent au fil de matchs endiablés, surprenants et surtout divertissants.
Cette année, c'est 8 trios formés de 2 improvisateurs et d'un dessinateur qui s'affronteront sur l'improvisoire. Dessins et jeux s'unissent pour vous offrir des improvisations hautes en couleurs, marquées autant par les prouesses théâtrales que les coups de crayon inspirés. Le tournoi en trio de la Ligue BD, samedi 16 avril 20h, au Musée de la Civilisation. Entrée libre.
La Ligue québécoise Impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Information liquibd.com.
Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% chez Chichio Café, 875 rue de Clairefontaine à Québec. Chichiocafé.com. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Entraîne ta fibre vous est présenté par Le Copilote. Afin de demeurer compétitif, tout entrepreneur doit s'adapter à un monde en constante évolution. Le Copilote est un regroupement d'experts sous un même toit. Que ce soit dans les domaines de la gestion de la structure d'entreprise, ressources humaines, communication et marketing, technologie, comptabilité et juridique. Le Copilote accompagne les entreprises dans leur croissance en maximisant leurs profits et en optimisant le potentiel de toutes leurs ressources. Consultez lecopilote.ca pour connaître tous les services offerts. Suivez-nous sur Facebook ou sur Twitter. Le Copilote, un atout de taille pour votre réussite.
Wow, quelle entrevue avec notre ami Charles Auger.
Oui, c'était intéressant.
Très inspirant.
On a juste une partie, une partie de deux.
Ça démontre qu'on est capable. Ça, on a tout ça dans nous, mais ça prend le feu, ça crée le désir, puis surtout de se mettre en action et puis faire.
Ce qui était super intéressant, c'est qu'il a dit, moi, je voulais être homme d'affaires, puis parce que j'ai un peu le parallèle, moi aussi, je me suis toujours dit, je vais être une femme d'affaires.
Ah ouais, j'espérais que tu ne dises pas, je vais être homme d'affaires.
Non, ouais, c'est une bonne... Mais puis, c'est quoi tu fais? Ouais. Parce que c'est trop général. Par quoi tu commences?
Exact.
Par quoi que c'est pas toujours évident. Fait que je pense qu'il a fait un bon choix là, d'aller apprendre son anglais. Ça l'a parti.
Ouais,
ce
ben
qu'il
oui,
a,
ben oui. Mais je veux dire, il n'a pas juste dreamé. Là, il s'est pris en main. Il a réalisé des choses qui ont été excusez-moi, j'ai pas le terme français. Des milestones.
Mais je sais pas ce que ça veut dire.
Pierre angulaire okay, de sa
Pierre
carrière.
Angulaire, ça,
mais il a mis les bases. Hein, il a mis des fondations solides pour être capable d'avancer puis de réaliser ses
rêves. Parce qu'à 24 ans, là, oser aller rencontrer des gens comme ça, puis il faut, là, les gens, des fois, je pense qu'ils banalisent un peu parce que tu viens d'une bonne famille, parce que oh, lui, il est chanceux.
Ben, a reçu, c'est Stéphane de MedExpress qui nous parlait.
Ben oui.
C'est de ça qu'il parlait, là.
Mais en fait, c'est pas ça. Il faut de l'audace,
ben
là,
oui.
Pour aller pendant 3 mois
ben
regarder
oui.
les chiffres de l'entreprise, pour aller présenter ça à des grands de
folie.
Ce monde.
Un peu de folie, de oui. l'audace, puis surtout de... Donner un coup de pied dans le derrière puis de le faire. Wow! On va le réinviter, c'est sûr.
Ben, je pense qu'à la force des entrepreneurs,
ouais,
il ne sait pas.
Mais il va être là.
On va y reparler.
Excellent. Hey, on a l'invité du copilote avec nous. Le copilote, nos présentateurs, partenaires de l'émission sur la rue Marais, qui est un regroupement de plusieurs entreprises qui offrent des services à vous, les entrepreneurs. Et on a Alex Labrie de l'agence Prolifique qui vient nous parler du site web et de web et de tout ce qui est web. Salut, Alex.
Bonjour, ça va?
Ça va
oui,
super bien. Première expérience à la radio?
C'est ma première expérience à la radio.
Excellent. Donc, ça paraît pas. T'as l'air détendu, cool, gros sourire, on aime ça.
Ouais, mais je fais semblant d'être détendu.
Okay.
Ça paraît bien, tant mieux. Là.
On a un lecteur de fréquence cardiaque là, qui nous annonce que non, ça va super bien aller. On va te rendre ça le fun. Mais tu nous parles de quelque chose qui doit te passionner, toi,
ben
j'imagine.
Oui.
Les sites web, l'Internet, les internets.
Absolument. Absolument. Le web en général, là, que ce soit le marketing web, site web.
Ça a tellement évolué depuis 10 ans. Là. Moi, je me souviens, au secondaire, on avait des genres de babillards électroniques. Là. C'était ridicule. Il fallait que tu fasses 3 uploads pour 1 download. Et puis,
ouais.
C'était vraiment... C'était les débuts. On se connectait avec le téléphone. là. Mmh. En 2016, on n'est plus rendu là pantoute. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont pas sur Internet. Ça, je ne comprends pas. Réveillez-vous, nos auditeurs, c'est Corel. Vous êtes en affaires, vous n'avez pas de site web. Il y a quelque chose qui marche pas. C'est quoi le web en 2016, Alex? Parle-nous un petit peu. C'est quoi un site web en 2016?
Ouais, mais dans le fond, le site web, là, d'abord, doit être stratégique. Le design doit être réfléchi. La technologie doit être bien choisie aussi. Faut comprendre qu'un site web, à partir du moment qu'il est fait, il faut pas le laisser à l'abandon. Il faut vraiment mettre l'amour, l'entretenir, mettre à jour le contenu, les photos, les vidéos, etc. Puis ça, c'est pas mal. Une des premières erreurs que les gens font, c'est qu'ils planifient, ils créent un site web avec une agence ou des fois, c'est le beau-frère qui fait le site web, etc. Oui.
Puis, avec une petite bière à la fin de semaine.
Une petite bière à la fin de semaine, ouais. Puis, ils le laissent sur le web comme ça, puis ils attendent que la magie s'opère par elle-même. Or, c'est pas le cas du tout.
Mais
là,
est-ce que c'est mieux, Alex, ça, que pas de site web?
Ben oui,
c'est déjà d'une présence web, oui. On s'entend que c'est la base, là.
Absolument.
Une page Facebook, peut-être c'est d'autres choses, on pourra en rejaser, c'est peut-être moins dans vos cordes, mais les clients, je pense que votre mission est de les mettre sur le web en 2016.
Ouais, absolument.
Puis tu me parles de technologie, c'est quoi les différents choix qu'un entrepreneur a à faire au niveau des technologies?
Ben c'est toujours... Tout ça est toujours lié selon les besoins. Ce qui est très populaire ces dernières années, dans le fond, c'est un gestionnaire de contenu. Donc, c'est de faire en sorte que le client puisse auto-gérer lui-même et rendre son site lui-même évolutif avec le temps. Donc, vous avez sûrement entendu parler de WordPress. Bien WordPress, sûr, qui est un très grand gestionnaire. C'est le gestionnaire de contenu qui est le plus utilisé.
Notre blog En train de taffer, bien sûr,
ben
WordPress.
Ben oui. C'est tellement pratique, c'est tellement...
C'est extraordinaire parce que moi, je suis pas un programmateur. Je suis pas un programmeur, je suis pas un nerd, mais je suis quand même à l'aise en informatique, je peux me débrouiller. Et une fois que la base est mise en place, je deviens comme autodidacte, puis je peux faire mes affaires moi-même. Et ça, pour l'entrepreneur aujourd'hui, ça vaut de l'or, là.
Ben oui. Puis le web, c'est ça aussi. C'est ça... Moi, mon background personnel, ma base, ma passion, c'est le marketing. Donc, j'ai eu un cours à l'université en marketing. Puis, je me suis rendu compte que le marketing, tout allait vers le web. Mais dans mes cours, on parlait pas beaucoup de web, disons. C'est pour ça que j'ai décidé d'apprendre par moi-même. Puis, là, je te suis un peu dans ton idée. J'ai écouté des vidéos YouTube, j'ai lu des articles de blog, des e-books, etc. Puis, c'est avec toute cette amalgame-là de connaissances que j'ai moi-même développé et lu et consommé. Qu'aujourd'hui, je suis assez expérimenté.
T'en fais, puis t'en vis, puis t'en manges.
Exactement. Ouais.
Je veux juste qu'on reparle, parce que j'ai des entrepreneurs qui, justement, des fois, ils vont investir beaucoup, beaucoup à faire leur site web, mais ils comprennent pas nécessairement que c'est seulement une vitrine, que c'est pas parce que tu fais un site web que tout le monde va atterrir sur ton site web. Parce qu'il y a quand même, parce que tu parles de marketing, il y a quand même une stratégie à mettre en place.
Il y a deux aspects. Tu peux avoir le plus beau site web au monde que personne ne va connaître, mais ça ne sert à rien.
C'est ça.
Donc après ça, il y a une question, j'imagine, tu parlais de marketing, c'est de ça. Visibilité.
Oui, absolument. J'ai lu dernièrement, je ne me rappelle plus c'est qui l'auteur, désolé pour ça, que sur le web, 80% des actions qu'il faut que tu effectues, c'est à l'extérieur de ton site web. Donc une grande tendance depuis les dernières années, c'est le inbound marketing. Au Québec, on parle aussi beaucoup de marketing de contenu. Donc c'est...
Tu peux t'expliquer, c'est quoi le inbound?
Le inbound marketing.
Inbound marketing?
Ben, ça fait environ 50 années, ou c'est pas plus, qu'on vit à travers un monde de outbound marketing. Donc, on interrompt les gens pour diffuser un message publicitaire, un message de vente. Le inbound marketing, c'est comment attirer des gens vers soi. Donc, par entremise de contenu qui aide, qui divertit notre public cible. Puis une fois dans notre réseau, que ce soit sur notre page Facebook, que ce soit sur notre site web, comment faire en sorte d'améliorer la relation, d'échanger peut-être un courriel, un point de contact comme ça, de continuer à travailler notre relation. On est vraiment à l'ère relationnelle là, en 2016.
Oh oui.
Puis enfin les convertir en clients et en ambassadeurs de marque. C'est quoi un ambassadeur de marque? C'est quelqu'un qui parle de notre compagnie, de notre produit ou service. Là.
Donc vous avez des stratégies qui font en sorte, ça c'est vraiment puissant, que les gens viennent vers l'entrepreneur.
Oui, absolument.
Au lieu que l'entrepreneur fasse la publicité traditionnelle, là, dans le fond, une pub, c'est quoi? C'est « je suis bon, faites affaire avec moi ». Ouais, mais t'interromps un petit peu dans le sens que si je suis en train de lire un journal, ben là je tombe sur une pub, tu interromps ma lecture pour ta pub. Mmh. J'écoute la télé, c'est le même principe, on coupe, on met une pub. Là, ce que tu me dis, c'est que maintenant le web en 2016, avec des stratégies comme ce que vous avez chez Prolific, on peut faire en sorte que les gens vont s'intéresser à notre contenu puis vont venir vers nous.
Ouais, absolument.
C'est puissant, ta barouette,
ça. Ça passe par une planification stratégique. C'est premièrement, c'est quoi les objectifs de la compagnie? C'est niaiseux, mais si les objectifs sont pas établis, que ce soit communicationnel ou marketing, ben tout va d'un côté à l'autre. Ensuite, les personas. Persona, c'est les publics cibles. Mm. Il faut dresser.
Hey, on entend souvent, moi, c'est monsieur, madame, tout le monde, mon public cible. C'est pas vrai, ça.
Faut segmenter un peu. Mais
oui.
Faut segmenter un petit peu plus que ça, ouais.
Les personas ou les avatars aussi.
Avatars, oui, etc. Puis, quand les objectifs, puis quand on sait à qui qu'on parle, mais là, c'est là qu'on développe, premièrement, la première étape du inbound marketing, c'est attirer les gens. Comment qu'on les attire? Ça peut être un blog d'affaires, par exemple. Ça peut être une série, une web TV. Ça peut être une émission radio, podcast.
Des podcasts, exactement. Mais c'est ce qu'on fait. On vous donne du contenu. On veut que vous veniez consommer de notre site, puis de nos articles, puis de nos chroniqueurs. C'est ce qu'on vise avec cette émission-là.
Il faut vraiment développer une relation et ensuite vendre. Quand la relation est bien établie, puis on a aidé, on a diverti la personne, etc. Ensuite, là, tu peux commencer à être un petit peu plus...
C'est pas mauvais hein, dans mais un non, sens. Chaque non. entreprise a besoin de survivre en vendant.
C'est en lien avec Vincent.
Mais oui, exactement.
Arrête, parce que dans le fond, notre chroniqueur en vente, c'est arrêter de vendre, laisser vos clients vous acheter.
Mais c'est exactement ça.
C'est vraiment dans la même optique.
Absolument. Ouais.
Donc, chez Prolific, vous êtes en passant sur Marais avec en l'intérieur des bureaux du copilote.
Absolument.
Du copilote.
Ouais.
Donc, conception, mais stratégie, je pense que le mot est vraiment là, de mettre sur pied un genre de plan, justement, un plan stratégique de web avec les budgets du client. Comment ça marche, les fameux sous? Le client vient vous voir et vous dit, moi, j'ai tant de budget, ou vous essayez de composer avec ça?
Ça, c'est toujours le nerf de la guerre, hein, le budget. C'est vraiment soit que c'est un budget préétabli avec le client en amont, soit que ça peut être un accompagnement mensuel. Nous, on mise beaucoup pour par le service conseil. Donc, ça peut être un accompagnement mensuel avec une banque d'heures mensuelle, etc.
Ça, c'est un forfait qui devrait être mis de l'avant par les entrepreneurs. Parce que, comme tu le disais tantôt, même si je viens vous voir, je vais faire un site web, après ça, je le laisse parker là pendant 2-3 ans, il va mourir, mon site.
Exactement.
Alors, en ayant sur un forfait qui est mensuel, d'un, au niveau des sous, j'ai pas un investissement aussi majeur à mettre drastiquement en partant. Je le mets temps par mois, je le budget, déjà, ça vous prend par le budget. Mais après ça, ça devient quelque chose qui fait en sorte que mon site, tu vas le garder vivant.
Ouais.
C'est ça le secret pour avoir du référencement naturel. Ça, c'est un autre sujet de chronique puis d'émission. On pourrait en parler longtemps.
Mais oui.
Mais j'imagine que vous avez aussi des connaissances dans ça puis que vous pouvez accompagner les entrepreneurs là-dedans. Tout ce qui est référencement puis assurer qu'on est bien référencé puis que le
Absolument.
Site monte dans les rankings.
Ouais. Absolument, oui. Ben, à la base, la stratégie, comment attirer des gens, c'est soit par contexte. Donc, un contexte, c'est sur un moteur de recherche. Je cherche plomberie à Québec, par exemple. Ou soit par ciblage. Ciblage, c'est moi, mon public cible, c'est les jeunes hommes issus de la génération Y, mais ça va être plus les réseaux sociaux, Instagram, exact. Facebook, etc. Donc, tout ça fait partie de l'image globale de la stratégie.
Alex Labrie de l'agence Prolific, merci de ton temps ce matin. C'est très agréable comme chronique. Et puis, on peut vous rejoindre de quelle façon?
Que ce soit sur site web, agence Prolific avec un K.ca.
Et sinon,
directement au copilote.
Au copilote sur la rue Marais à Québec. Merci
Absolument.
Beaucoup, Alex.
Merci à
nos auditeurs pour cette émission. Votre présence nous fait chaud au cœur. On reçoit vos messages. On est très contents. Puis continuez à nous écrire sur la page Facebook d'Entraîne ta Fibre. Et nous, on se reparle la semaine prochaine pour notre émission Entraîne tes finances. Et n'oubliez pas notre invitation du 28 avril pour la Foire des entrepreneurs. Merci, Mélanie Florent, pour la mise en onde. On vous invite à visiter ton blog, Mélanie, sur les différences dans la société. Vous retrouverez la page Facebook en tapant le mot différent au pluriel dans Facebook. Et je vous laisse au bon soin de mon ami Suzy Turcotte pour l'émission Sentier Secret. Bonne journée, c'est KRL.
Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Entraîne ta fibre vous a été présenté par Le Copilote. Le Copilote accompagne les entreprises dans leur croissance en maximisant leurs profits et en optimisant le potentiel de toutes leurs ressources. Consultez lecopilote.ca pour connaître tous les services offerts. Le Copilote, un atout de taille pour votre réussite.
89.1. CKRL.
Québec.
En fermeture du Festival de la BD francophone de Québec, l'Harmonie de Charlebourg, sous la direction de François Dorion, vous invite au concert dessiné « Les fantastiques aventures du Baron de Munchausen ». Venez voir les dessinatrices Catherine Lemieux et Valmot faire vivre en illustration les péripéties rocambolesques du Baron et entendre une cinquantaine de musiciens sur scène. À cette occasion, l'Harmonie de Charlebourg remettra une bourse pour la relève musicale aux deux lauréats de son concours. Les fantastiques aventures du Baron de Munchausen en concert dessiné le 17 avril à 15h à la salle Octave Crémazie du Grand Théâtre de Québec. Informez-vous sur harmoniecharlebourg.ca et sur notre page Facebook.
À CKRL, on est fiers de donner une place de choix à la musique tous les mardis soirs.
Swing Out avec Jasmin Hinze à 20h30, Délinquant Juvénile avec David Rochette à 21h et Les Saints Patrons de la Couffaine avec Jean-Sébastien Doré à 22h30.
Que vous réfléchissiez avec Dany Laferrière, que vous rêviez avec Marc Lévy, que vous enquêtiez avec Christine Brouillette ou que vous songiez à Marie Laberge, les mots de vos auteurs préférés vous portent et vous transportent. Venez les rencontrer au Salon international du Livre de Québec, sous la présidence d'Alain Mabancou, du 13 au 17 avril, au Centre des congrès de Québec.
Univers francophone vous est présenté par l'Hôtel Château-Laurier Québec. Elle est la première entreprise franco-responsable et engagée dans le développement durable. De plus, elle vous propose la plus allégée